Bonjour à chacun. Ce matin, j'aimerais introduire cette prédication en vous lisant un extrait d'un texte, que vous connaissez probablement pas. En tout cas, son contenu, vous le connaissez probablement pas. Moi, je le connaissais pas avant d'avoir préparé cette prédication. Par contre, c'est un texte que vous en avez sans doute entendu parler. Je vais vous lire. C'est un texte qui n'est pas dans la Bible, bien sûr. Enfin, bien sûr, non. C'est pas dans la Bible. Mais ça va nous servir d'illustration pour notre prédication. Vous allez voir si vous le connaissez. On va voir si vous le connaissez. Je vous poserai la question après. Au nom du Seigneur, amen. C'est accomplir une action honorable et profitable au bien public que de confirmer, selon les formes consacrées, les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix. Que chacun sache donc que, considérant la malice des temps, et pour être mieux à même de défendre et maintenir dans leur intégrité leur vie et leur bien, les gens de la vallée d'Uri, la Landsgemeinde de la vallée de Schwitz et celle des gens de la vallée intérieure d'Unterwald se sont engagés, par serment pris en toute bonne foi, à se prêter les uns aux autres n'importe quel secours, appui et assistance, de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni leur vie ni leur bien, dans leur vallée et au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n'importe quel acte hostile, attenteraient à leur personne ou à leur bien, ou à un seul d'entre eux, les attaqueraient ou leur causeraient quelques dommages. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Alors dites. Non, c'est pas la constitution de la Suisse, c'est le pacte. C'est le pacte de 1291. Au début du mois d'août, donc c'est le pacte fini comme ça, fait en l'an du Seigneur 1291, au début du mois d'août. Donc on a gardé le 1er août comme fête nationale de la Suisse. En fait, on ne sait pas quand ce pacte a été, quel jour exactement ce pacte a été signé, mais voilà, au début du mois d'août de l'an 1291, on pourrait dire ces premiers Suisses, même si ça ne s'appelait pas encore des Suisses à ce moment-là, ont fait une alliance. Et puis, je vous lis encore juste la conclusion de ce traité d'alliance. Les décisions ci-dessus, consignées, prises dans l'intérêt et au profit de tous, doivent, si Dieu y consent, durer à perpétuité, en témoignage et confirmation de quoi le présent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni des sceaux des trois communautés et vallées susdites. C'est un peu technique comme texte, c'est un texte légal, souvent les textes légaux sont un peu techniques, mais voilà la base de l'alliance. Parfois, certains appellent ce texte-là, le pacte de 1291, le pacte de l'alliance éternelle. Les Suisses ont fait une alliance qui devait, comme ils l'ont dit, si Dieu y consent, durer éternellement. Une alliance quand même sérieuse, dans laquelle ils promettent des choses conséquentes. Ils promettent de se soutenir les uns les autres, de se protéger les uns les autres, quitte à y laisser leur vie, vous avez entendu tout à l'heure. Quitte à y laisser leur vie. Donc c'était pas rien. C'était pas rien. Ce texte, c'est un remarquable exemple d'alliance. Trois régions de Suisse qui se prêtent secours mutuel. Les signataires de ce texte, ils ont pris des dispositions pour vivre libre sur leur terre. Vous pouvez, si jamais je peux vous le passer, vous pouvez lire, ils prennent tout un tas de dispositions sur le système législatif, le système pénitentiaire, où ils veulent être indépendants, ils ne veulent pas recevoir de juges extérieurs, ils veulent être seuls à régner. Ils veulent aussi que s'il y a des conflits entre eux, entre ces personnes, ce soit des médiateurs des vallées en question qui interviennent pour résoudre les conflits. Donc c'est vraiment une alliance qui est faite entre ces trois, communautés. Comme j'ai dit, hein, l'Alliance, elle prévoyait des conflits internes et elle prévoyait les moyens de résoudre ces conflits. Elle n'est pas non plus faite, c'est pas un CDI, hein, c'est une alliance éternelle. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Pourquoi je démarre avec ce texte un petit peu emblématique de la Suisse ? Est-ce que je suis un patriote chevronné ? Bon, pas spécialement, je dois vous l'avouer. J'aime la Suisse, c'est mon pays, je suis né ici. Mais j'aime aussi beaucoup d'autres pays. J'ai aussi la nationalité française, j'aime beaucoup la France. Et j'ai voyagé dans plusieurs pays, j'aime beaucoup d'autres pays. Non, si je vous parle de ce pacte, c'est pas parce que je veux faire la gloire de l'histoire suisse, mais c'est parce qu'on a là, en 1291, l'inauguration d'une alliance. Et je pense que c'est un excellent exemple d'alliance humaine. Bien sûr, la Suisse n'est pas un pays parfait. L'alliance qui a été faite entre le peuple suisse n'est pas une alliance parfaite. Hein. L'histoire a montré qu'il y a eu des conflits internes, il y a eu des guerres internes, il y a eu beaucoup de problèmes internes. Donc ce n'est pas une alliance parfaite, mais ce texte nous montre un bon exemple d'alliance humaine. Et la Bible n'est autre, en fait, qu'un traité d'alliance. Toute la Bible est un traité d'alliance. Dieu a souhaité faire alliance avec son peuple. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le médiateur de cette alliance. Le titre de cette prédication, c'est que Jésus est plus qu'un guide. Jésus est plus qu'un guide. Il est ce médiateur d'une alliance nouvelle que Dieu veut faire avec son peuple, que Dieu veut faire avec l'humanité. Et on va lire maintenant un texte qui décrit cela, un texte qui décrit cette nouvelle alliance. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8. Je vais lire les versets 1 à 13 du chapitre 8. Jésus est plus qu'un médiateur. Vous pouvez chercher donc dans vos Bibles l'Épître aux Hébreux. Et on va voir cela. On a étudié l'Épître aux Hébreux hein, depuis quelques semaines. On a vu déjà pas mal de choses sur qui est Jésus. On a vu qu'il est plus qu'un ange. On a vu qu'il est plus que Moïse. On a vu qu'il est plus qu'un prophète. Et maintenant, on voit qu'il est plus qu'un guide. Vous avez sans doute trouvé le texte. Je vais le lire. Et puis ensuite, je ferai quelques commentaires sur ce texte. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Tout grand prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que Jésus lui aussi ait quelque chose à présenter. Certes, s'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes conformes à la loi. Or, ils célèbrent un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. » Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustices, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première, Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un mot sur la structure de ce texte. Ce texte, il est assez riche. C'est pas facile d'en comprendre tout le sens, mais je pense que si on comprend bien la structure, on arrive à comprendre ce qui est dit ici. Ce texte, il a une forme d'oiseau. Là, vous dites, oula, qu'est-ce qu'il me dit, Jonathan ? Je m'explique. Dans ce texte, il y a toute une aile qui commence. C'est les versets 1 à 5. Et puis, on a un verset central, le verset 6, qui est un petit peu le corps de l'oiseau, qui est vraiment le centre de ce texte. Et puis ensuite, on a une autre aile, qui est un petit peu la symétrie de la première, les versets 6 à 13, qui montrent autre chose. La première aile, elle démontre que le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire la fonction de prêtre telle qu'elle était vécue dans l'Ancien Testament, cette prêtrise-là était insuffisante. Le verset 6, qui est au centre, est vraiment le point culminant de ce texte. L'auteur montre que Jésus est plus qu'un guide. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et puis, les versets 7 à 13 forment la deuxième aile de cet oiseau, donc qui répond un petit peu à la première, dans laquelle l'auteur montre et il démontre l'insuffisance de la première alliance. D'abord, il a démontré l'insuffisance de la prêtrise, et ensuite, dans la prêtrise, dans la première alliance, et dans la deuxième aile, il démontre l'insuffisance complète de cette première alliance. On va voir ces trois parties. Premièrement, le sacerdoce lévitique est insuffisant. L'auteur reprend, il revient sur ce qu'on a vu il y a deux semaines, que Jésus est notre grand prêtre. Il est plus qu'un prêtre, il est notre grand prêtre parfait. Vous vous souvenez, il est l'adaptateur qui nous permet de faire un pont entre Dieu et l'humanité. Mais il est bien plus qu'un grand prêtre humain. Là où les grands prêtres humains offrent des animaux en sacrifice, c'est ce que nous dit le texte, Jésus a offert un sacrifice. Il s'est offert lui-même. Là où les grands prêtres humains sont limités à la terre, Jésus, lui, est dans le ciel. Il exerce un ministère céleste. Là où les grands prêtres humains servent dans le tabernacle, Jésus, lui, sert dans le vrai tabernacle, c'est-à-dire dans la présence même de Dieu. Là où les grands prêtres humains offrent un culte conforme à la loi, soit conforme à l'ombre et à la copie des réalités célestes, lui, Jésus, offre un culte à Dieu dans les réalités célestes, un culte réellement céleste. L'auteur de l'Épître aux Hébreux prouve, en citant ce verset de l'Exode, au moment où Moïse a dû construire le tabernacle, Dieu lui a dit, « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Le tabernacle a été fait selon un modèle. Et c'est là l'argumentaire de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit, « Ce n'était pas un original, c'était une copie. » Puisque Dieu a montré un modèle et que Moïse a simplement copié le modèle qui lui avait été donné. Il est non pas un modèle, le tabernacle de l'ancienne alliance, mais il est une reproduction d'un original. C'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle ce culte de l'ancienne alliance la copie et l'ombre des réalités célestes. La copie et l'ombre des choses à venir. Et là, on a vraiment une clé que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne. Il nous montre que cette ancienne alliance, cette ancienne prêtrise, elle n'était pas mauvaise. Elle était bien sûr voulue par Dieu, mais elle était insuffisante. Elle était la copie et l'ombre de ce que Jésus allait venir et de ce qu'il allait inaugurer. Ça, c'était la première aile de l'oiseau. Maintenant, on passe au verset central, le corps de l'oiseau. On voit que Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle. Le sacerdoce, c'est-à-dire le ministère ou la fonction de prêtre de Jésus, est meilleur que celui des prêtres de l'Ancien Testament, pour toutes les raisons qu'on a vues plus haut, hein, parce que lui est vraiment dans le ciel, lui est vraiment dans la présence de Dieu, lui a offert sa propre vie. Mais là, on arrive au point central. Le verset 6 nous dit, mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Et ce, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. Jésus est le médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur des promesses meilleures. Comme j'ai dit, ça ne signifie pas que l'ancienne alliance était mauvaise, que le peuple de Dieu avait mal compris les intentions de Dieu. Bien sûr, Dieu avait voulu cette ancienne alliance, mais elle était insuffisante. Elle était l'ombre et la copie des choses à venir. C'est quoi les promesses de cette nouvelle alliance? Elles sont tellement supérieures. Les promesses de cette nouvelle alliance, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième aile, hein. C'est le pardon des péchés, c'est la vie éternelle, c'est le fait que nous serons co-héritiers avec Christ dans le royaume de Dieu, et j'en passe. Vous savez ce que c'est un médiateur? Vous avez déjà entendu ce mot, c'est pas un mot super courant, on l'utilise un peu, mais pas très souvent. Quand on se pose des questions aujourd'hui, on regarde sur Wikipédia. Alors, j'ai regardé la définition de médiateur sur Wikipédia, je vais vous la lire. C'est écrit ça sur Wikipédia. Un médiateur est une personne physique qui intervient pour faciliter une communication, ou rétablir une relation. Et c'est exactement ça. Jésus est cet intermédiaire, il est ce médiateur, celui qui rend l'alliance possible. On revient sur l'image du pacte. Pacte de 1291, là, c'est trois chefs de communauté. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu des cours d'histoire à l'école primaire, si vous avez fait l'école primaire en Suisse. On a ces trois hommes qui ont prêté serment dans cette alliance en 1291. Et à l'époque, il n'y avait pas eu besoin de médiateur. Ils étaient les trois là, et puis ils sont entrés les trois dans cette alliance. Mais c'est quelque chose qui est impossible si on veut créer une alliance avec Dieu. Parce qu'on a vu qu'on était complètement incapable de nous approcher de Dieu. On était complètement indigne d'inaugurer par nous-mêmes une alliance avec Dieu. On avait besoin d'un médiateur. On était en fait en proie à la colère de Dieu, une colère méritée à cause de notre péché. On était séparés de Dieu à cause de notre péché. Et Jésus a servi de médiateur. Il a fait le pont, il a fait le lien, il a rendu l'alliance possible. En fait, on pourrait presque aller jusqu'à dire que Jésus est l'alliance. Il est l'élément nécessaire, vital, pour que l'alliance puisse avoir lieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Il a donné sa vie pour payer la rançon que méritait notre péché. Il a payé à notre place. Il a rendu cette alliance possible. Et je me suis permis de commencer par cette image du pacte de 1291 parce qu'on parle souvent d'alliance. La Bible parle beaucoup d'alliance. Et parfois, ça peut sembler un peu, on parle d'alliance, voilà, ça semble un peu abstrait. Mais en fait, une alliance, c'est ça. Hein. C'est comme en 1291, des communautés qui s'unissent autour d'un projet. C'est des communautés qui deviennent un peuple ensemble. Et qui prennent des engagements mutuels les uns envers les autres. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose de réel. Et c'est ce que Jésus est venu faire en Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est le projet de Dieu pour l'humanité? C'est de sauver des hommes et des femmes, ça c'est vrai, mais en fait, son projet ultime, le projet de Dieu pour l'humanité, on peut le lire, je vous lis juste un verset dans Apocalypse 21, on voit que Dieu accomplit son projet. Je vous lis juste Apocalypse 21, verset 3. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Le projet de Dieu pour l'humanité, c'est de se faire un peuple. Si vous regardez la Genèse, c'était déjà ce que Dieu avait ordonné à Adam et Ève, hein, « Multipliez-vous. » Remplissez la terre et assujettissez-la. Dieu veut se faire un peuple. C'est là son projet. Il veut se faire un peuple avec lequel il puisse faire une alliance, avec lequel il puisse être réellement en relation. Encore un mot sur la deuxième aile, parce que vous savez, on a vu la première aile, que le sacerdoce lévitique était insuffisant. On a vu le corps de l'oiseau que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, et on voit maintenant la deuxième aile, que l'ancienne alliance était insuffisante. La logique de l'auteur est assez claire ici. En fait, il va citer plusieurs versets, tout un paragraphe du prophète Jérémie, dans lequel le prophète Jérémie annonce une alliance nouvelle. Et la logique, c'est de dire, mais si Dieu a annoncé des siècles auparavant une alliance nouvelle, ça voulait bel et bien dire que l'alliance ancienne était insuffisante. Elle n'était pas suffisante, elle n'était pas capable de créer ce nouveau peuple, de créer cette relation avec Dieu. Quelle est la différence entre cette ancienne alliance et cette nouvelle alliance? C'est que l'ancienne alliance, c'est toujours ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, l'ancienne alliance, elle était fondée sur la loi, et le peuple a été incapable, à aucune époque, d'obéir à cette loi. Alors que dans la nouvelle alliance, le socle de la nouvelle alliance, c'est l'Évangile. Hein? Il a inscrit la loi dans notre esprit. Il a inscrit la loi dans notre cœur. Il a fait en sorte que plus personne n'ait à enseigner son frère en lui disant « connais l'Éternel ». Parce que tous connaîtront l'Éternel. Et nous vivons dans cette nouvelle alliance. Nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Nous avons tous cette relation personnelle avec Dieu. Nous sommes tous des prêtres d'une certaine manière, puisque nous avons cette relation directe avec Dieu. On prend un tout petit peu de recul. Jésus est ce médiateur de la nouvelle alliance. Vous vous souvenez qui était le médiateur? Qui est appelé le médiateur de l'ancienne alliance? C'est Moïse qui est appelé le médiateur de l'ancienne alliance. Mais en fait, Moïse était plutôt un guide, justement. Il était plutôt un guide. Il a parlé de la part de Dieu. Il a montré la volonté de Dieu au peuple. Mais il n'a pas été, au même titre que Jésus, celui qui a permis, qui a rendu possible cette ancienne alliance. Du coup, Jésus est totalement différent de Moïse, et l'alliance qu'il inaugure est totalement différente de l'alliance que Moïse a inaugurée. Je me permets de vous lire un verset dans Jean 14, au verset 6, un verset que vous connaissez sans doute. Jésus lui dit: c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus nous dit, il est ce médiateur, il est cet adaptateur, il est non seulement il est un guide, mais il est bien plus qu'un guide, parce qu'il rend le chemin possible. Il est le chemin. Par son sacrifice, nous pouvons être sauvés. Il est celui qui crée, en fait, la nouvelle alliance. Il est celui qui inaugure cette nouvelle alliance. Jésus est celui qui constitue cette nouvelle alliance. Il est le pacte, d'une certaine façon, de cette nouvelle alliance. Si on revient à cette illustration-là, on pourrait dire que, à l'illustration du pacte de 1221, on pourrait dire que il est celui qui rédige le texte, il est celui qui rassemble chacune des parties, il est celui qui convainc chacune des parties d'entrer dans l'alliance. Il est celui sans qui l'alliance serait totalement impossible. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment on applique ce texte? On a appris que Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance. On a appris que Jésus est plus qu'un guide. En quoi ça doit changer ma vie? En quoi est-ce qu'on doit être transformé par cela, hein? Je crois qu'on ne peut pas lire la Bible pour des raisons intellectuelles seulement. On la lit toujours en vue d'un changement de notre cœur. Et on doit se poser la question maintenant, comment cette vérité que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance doit nous transformer au quotidien? Je vous propose deux choses. Première chose, tu dois recevoir Jésus-Christ. Tu ne peux pas être réconcilié avec Dieu en dehors de Jésus-Christ. C'est impossible. On vit dans une culture, dans une société où on prétend que c'est possible, qu'on peut rejoindre Dieu de multiples manières. Mais ce texte nous montre que Jésus seul est ce médiateur. On l'avait déjà vu la dernière fois, il est l'adaptateur, le seul capable de créer un pont, de créer ce chemin entre Dieu et les hommes. Ça nous montre que Jésus est plus qu'un guide. Tu ne peux pas juste te contenter de suivre Jésus. dans ce qu'il a fait ou dans ce qu'il a enseigné. Tu dois l'accepter. Tu dois croire en lui. Tu dois placer ta confiance en lui. Parce qu'il n'est pas juste un guide qui montre la voie, il n'est pas juste un panneau indicateur. Les prophètes étaient des panneaux indicateurs, mais Jésus, lui, il est le chemin même qui nous amène à Dieu. Tu dois vivre pour lui, tu dois vivre en lui pour pouvoir entrer dans cette relation avec Dieu, pour pouvoir rentrer dans cette alliance. C'était la première application. Et la deuxième application, si tu es dans cette alliance avec Dieu, je pense que la deuxième application, elle concerne notre évangélisation. Comme j'ai dit, on vit dans une culture pluraliste où chacun croit pouvoir détenir sa propre vérité. Et on doit être clair avec nos contemporains, on doit être clair avec les gens auxquels on s'adresse. Il n'y a pas d'autre médiateur. On ne doit pas être timide, on ne doit pas avoir peur de proclamer le nom de Jésus-Christ. Jésus est plus qu'un guide. C'est assez à la mode de dire que Jésus est un guide aujourd'hui. Même des non-chrétiens sont prêts à affirmer cela en disant « Oui, Jésus était un type formidable, il était tellement sage, il a dit des choses qui sont restées dans l'histoire, il a dit des choses qui ont marqué notre culture occidentale. » Beaucoup de gens sont prêts à affirmer ce genre de choses. Mais on doit dire que ce n'est pas suffisant. Jésus est plus qu'un guide, on a besoin de lui. Il est venu inaugurer cette nouvelle alliance. Ça signifie qu'il n'y a pas d'autre chemin. On ne peut pas, dans la manière dont on s'adresse aux personnes, laisser planer le doute en disant peut-être que oui, tu as ta propre foi et c'est très bien. On ne peut pas faire ce genre de choses. On doit vraiment annoncer Jésus-Christ. On n'a pas annoncé le message de l'Évangile si on n'a pas annoncé Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est pas au cœur de ce message, si on n'a pas expliqué qu'il est mort sur cette croix pour payer la rançon de nos péchés, on doit annoncer Jésus-Christ avec assurance et avec clarté, parce qu'il est notre médiateur, parce que Dieu veut se faire un peuple qu'il adore, un peuple qui l'adore pour l'éternité. Au même titre que les gens de Uri, de Schwitz et d'Unterwald avaient fait ce pacte, cette alliance éternelle en 1291, Dieu a fait cette alliance éternelle avec nous en Jésus-Christ. Cette alliance, elle est déjà inaugurée. C'est Christ qui l'a inaugurée. Elle est déjà actuelle. Elle est déjà réelle. Mais elle le sera infiniment plus dans l'éternité. On pourra vivre vraiment en tant que peuple de Dieu dans cette alliance, dans sa présence. Et j'aimerais terminer simplement cette prédication par ce verset que j'ai déjà mentionné dans le livre de l'Apocalypse. C'est un verset qui revient tout au long de la Bible. C'est vraiment un thème qui revient encore et encore de ce Dieu qui veut créer une alliance avec son peuple. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier. On veut te remercier parce que tu es plus qu'un guide. Parce que tu es l'inaugurateur de cette nouvelle alliance. Tu es le créateur. Tu es celui qui rend cette nouvelle alliance possible. Tu es ce pacte. Tu es le rédacteur de ce pacte. Tu es celui qui nous convainc d'entrer dans cette alliance. Tu es celui qui a offert sa vie pour que cette alliance soit possible. Aide-nous à faire de cette alliance le centre de notre vie, à annoncer cette alliance au monde autour de nous. Aide-nous à vivre cela, à vivre sur la base de cette relation personnelle avec Dieu, au lieu de vivre un christianisme qui serait juste l'empilement d'un certain nombre de choses à faire ou à vivre. Aide-nous à vivre cette relation personnelle avec toi. Je te demande ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen.